Au café de Sibrahim par Elissa Rice. Au pied d'une mosquée neuve, somptueuse, aussi belle que les plus belles de l'Orient, s'ouvre le café de Sibrahim. C'est un joyau, fleurant le thé vert et l'épais mocha, un joyau que, par les richesses brunes du Maroc et la grâce efféminée de Tunis, plafond fignolé par des miniatures de Meknès, matelas couverts d'authentiques tapis de Kaïronan, table minuscule qui supporte de vastes plateaux de cuivre, galeries au sol de marbre, aux murs tapissés de panneaux de velours, et là-bas, parmi la mosaïque verte, devant son four, le pâle visage du Kawadji se dort comme une tige de cannelle. La foule qui emplit ce café est élégante et mondaine, et néanmoins, malgré les smokings et les cheveux des femmes taillés courts, le décor reste pur, l'atmosphère lascive et mystérieuse. Nul cri de garçon pour commander les charbats ou les atiates. De sveltes tunisiens circulent entre les tables, le gland de la chécha caresse leur nuque, leurs costumes s'illuminent sous le jour des vitraux. Ils lancent des ordres imperceptibles, par signes sobres, par clignements d'yeux intelligents et fermes. Quand on s'est grisé là de fumée et de musique, on sort respirer dans un petit bosquet attenant, où on foule le gravier ocre sous l'ombrage des acacias, où les tables en faïence simulent des margelles de puits, où les sièges de rotimba sont comme autant de bonbons aux vives couleurs, des niches dont le fond appelle le rêve. Un fumeur fait glouglouter l'eau de son narguilé, dont les braises ardent comme un cœur. Des couples s'alanguissent, tandis que la musique dans la salle se prolonge, lente si elle évoque la majesté des villes nord-africaines au bord de la mer, où les femmes vont tout habillées de soie. Âpre et endiablé si c'est le cri nostalgique du bédouin au désert. Nostalgique, elle l'est toujours infiniment, cette musique, car le café de Sibrahim n'est ni à Tunis dans les vieux quartiers d'Alfaouin, ni à Fès dans l'ombre de Moulay Idriss. Il se trouve en plein Paris. Il est un fleuron de la cité arabe qui orne la capitale de la France comme un turban le front d'une jolie femme. Sitar, un des patrons du café, ils sont trois, associés comme frères. Sitar est une figure orientale comme on n'en voit presque plus, une figure d'un autre âge, qui dans ce milieu européen a gardé toute sa beauté. Il est allé à la Mecque. Là-bas, il était un troubadour. Il a parcouru la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, où les maisons nobles se le disputaient. Puis les troubles politiques et un hasard du destin l'ont refoulé jusqu'à Paris. Il connaît une infinité de choses, des vers et des mélopées, des récits et des légendes, et il improvise autant qu'il se souvient. Sa foi en Dieu, sa joie de vivre, son amour des femmes s'exhalent en un flot de paroles pimpantes, colorées et enchanteresses. C'est un gaillard tout en muscles, au teint couleur de henné, au large sourire, qui n'exprime que la satisfaction et la lumière. Étendu sur une banquette moelleuse, près d'un plateau de cuivre devant lequel les garçons défilent en lançant leurs jetons, Sitar surveille de son œil noir et vif les allées et venues des clients. Il s'efforce de baragouiner aux uns et aux autres quelques salamalecs, leur désigne une place plus ou moins confortable, plus ou moins proche de lui selon la distinction des hommes et la beauté des femmes. Et quand la salle est pleine, que l'été à la menthe mêle leur parfum à l'arôme des cafés turcs, que les narguilés roulent et la musique s'emporte, que les garçons filent et bondissent comme des couleuvres, Sitar jubile, frappe des mains pour accompagner la lutte et les tambours de basque. Il souffle au musicien « Allez mes frères, allez !» Accéléré. Il se dresse, recule son tarbouche sur son crâne rasé, et aux applaudissements de la foule, le voici qui mime quelques danses de bayadères égyptiennes. Avant d'en dire que la joie de Tahar était à son comble, que les toilettes des femmes se chiffonnaient dans l'exiguïté des places, que les Anglaises et les Persanes, les Hindous et les Algériennes, assises à une même table, se serraient encore pour céder un petit coin à des messieurs en haute forme qui se présentaient, Tahar, à sa grande surprise, vit entrer Tayeb le Naïf. C'était un ami de là-bas, un ancien ami des jours heureux. Tayeb le Naïf était éleveur de bœufs. Il avançait parmi ses consommateurs élégants et raffinés. Sous une blouse de maquignon rigide, d'un bleu sale, une matraque à la main, une casquette sur le chef dont il avait reporté la visière sur la nuque, traînant des godillots sans chaussettes, d'où émergeaient ses tibias maigres et poilus. Dans la pénombre du soir, à travers la fumée du tombak, il écarquillait de gros yeux pour découvrir son ami Sitar. Celui-ci se leva dès qu'il le reconnut et alla à sa rencontre, mais non sans contenir un fou rire, car il se remémora aussitôt toutes les naïvetés, toutes les bévues, toutes les bourdes de ce pauvre croyant qui, d'un bout de l'année à l'autre, provoquait l'hilarité des gens de la tribu. Sitar, de sa haute taille, dominait la réunion. Il cria, en frappant des mains, « Oh, mon camarade, ou même Salabik, Zratena Baraka, que je suis réjoui de te voir. La bénédiction nous visite. » Et il entoura Taïeb le naïf de ses grands bras de géant. Il l'embrassa avec des tendresses qu'il aurait eues pour une femme. « Comment vas-tu, frère? Assieds-toi là, près de moi. Comment va le pays? Oh, notre pays! Nos amis, nos maisons, nos routes, nos montagnes. Bien, bien !» balbutiait Taïeb encore étourdi. « Tout est dans la grâce d'Allah. » Très ému, l'éleveur de bœufs s'assit, sa matraque de figuier entre les jambes. « Allons, Kawadji, clamait-il, prépare un café très épais pour si Taïeb, que le cafard puisse aller dessus en sabot pour lui ôter son étourdissement. » Etar tapotait l'épaule de son ami. « Eh bien, frère, qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Le gagne-pain, le même sort que le tien. Que la volonté d'Allah soit faite. Amen. Tu es seul ?»« Au début, oui. Puis mes affaires ont prospéré. Dieu s'est penché sur moi. J'ai fait venir ma femme à l'époque des aubergines. Qui peut rester seul ici ?»« Que le chitan ?»« Oui, depuis, je suis heureux. J'ai fait venir Serge des fêtes. »« Serge des fêtes. » Tahar colla une main contre ses lèvres, de nouveau le fou rire lui montait à la bouche. Il venait de se rappeler le stratagème qu'avait employé la vieille entremetteuse du pays pour faire épouser à Taïeb Serge des Fêtes, pour faire croire au lourdeau que la policière n'était vierge. Serge des Fêtes, ainsi nommé pour sa beauté, pour sa taille élancée au déhanchement voluptueux, pour la pâleur de son teint et pour ses yeux brûlants, Serge des Fêtes était la fille unique d'une grand-tante dans ce douar d'Imsala, aux confins du tel tunisien. Elle avait suscité des scandales, troublé des ménages heureux, dissipé des jeunes gens. Des amis, des frères avaient été projetés pour elle du haut des torrents. Une nuit, son père et ses oncles décidèrent de la faire disparaître, de l'étouffer dans le puits sans fond. Ce projet fut discuté entre notables de la tribu un vendredi sur les dalles du marabout. Les jeunes femmes s'y opposèrent, regrettant de voir s'évanouir en Serge des Fêtes un symbole de la puissance de leur charme. Les vieillards craignaient une rébellion des amants de Serge des Fêtes. « Parlez bas, conjura-t-il, parlez bas !» Quand une vieille femme, une yème sait toute, s'avança au milieu de l'assemblée et dit « Au lieu de faire mourir Serge des Fêtes, que nous cherchons-nous à la faire épouser? Par qui? Qui voudra d'elle? Le nouveau-né connaît ses forfaits, les chats les miaulent la nuit sur les terrasses, les crapauds les crient dans les sentiers humides, les serpents les sifflent au creux des arbres, le lion les hurle du fond de sa forêt, et les sorciers les murmurent autour des tombes aux fanales qui les éclairent. Mais je veux la faire partir pour un douar lointain, sur lequel n'a encore soufflé aucun vent de démon, où Serge des Fêtes est ignoré comme on ignore le visage d'Allah. À qui veux-tu la donner? Un eunuque ou un vieillard? Non, un éleveur de bœuf aussi fort et aussi nature qu'un pâtre. Mais il s'apercevra que Serge des Fêtes n'est pas vierge. Ceci me regarde. Mon secret m'appartient. Je demande seulement que chaque croyant jette dans ma sébile une pièce blanche selon le poids de son gousset. Et aussitôt, les piécettes tintèrent sur cette dalle de marabout qui dut se réjouir d'avoir aidé au rachat d'une âme musulmane. Sitar, de même, y était allé de son guerche pour le sauvetage de Serge des Fêtes et pour le calme de la tribu. Et la yem Sétout s'en alla, des douros plein sa ceinture, qu'un cas sur un petit âne gris à la rencontre de Taïeb. Taïeb était assis devant la porte de son gourbi, sur les cornes d'une montagne, à l'ombre de noisetiers en fleurs. Il comptait du bout de son index velu les jeunes agneaux qui paissaient près de leur mère et supputait le nombre des nouveaux qui allaient naître. La journée s'annonçait chaude. Aux branches du noisetier, une gourde pleine de lèvres se balançait comme la tête d'un criminel. Sitayeb était lourd, avait le geste lent ainsi que la pensée. Dans son visage très brun, son pâle regard bleu errait, aussi doux que celui de ses vaches. Poète à 16 heures, accessible à la tendresse, il était profondément simple et naïf. « Sur toi le salut !» lui dit la yem Sétouf. « Sois la bienvenue, » répondit Taïeb. « Où te mènent tes pas ?»« Je reviens de la Mecque. Que ma bénédiction se pose sur toi, et je regagne ma demeure lointaine. Mais les jeunes années m'ont trahi, et la route est longue. Me permets-tu d'attacher mon petit âne à ton noisetier, de me reposer sous ses branches, et demain, à l'aube, je repartirai sans avoir marqué ma place sur la terre battue de ton seuil ?»« Je consens, » dit Taïeb. La vieille posa son bâton, attacha son âne, et s'adossant à une paroi du gourbi. « Oh, qu'il fait bon ici, le calme, l'ombre et l'amour !» Taïeb soupira et ne répondit rien. « Ainsi tu es assis seul à tes heures de repos. seul, mon ami, comme ce noisetier sans frère. Nul œil noir brillant comme un croissant de lune, nul joue ronde et veloutée comme l'abricot, nul bouche chaude au murmure de ruisseaux ne se sont penchés sur toi. Tu n'as pas goûté au paradis vert? Pourquoi? Quelle malédiction de ton père ou de tes aïeux s'est abattue sur toi pour que tu n'aies point mis à profit la parole du Coran? Trois choses en ce monde font la joie de la vie, le parfum, la femme et la prière. Taïeb le naïf baissa la tête, mit une main en éventail devant sa bouche. « Ah, si je n'avais pas honte, si je n'avais pas honte, femme, je te dirais pourquoi je n'ai plus aimé. »« N'aie point honte, mon fils, » s'empressa Layem Setout. « Conte-moi ton chagrin, soulage-toi de ta détresse. Je sais que ce qui manque à l'homme le fait toujours souffrir. »« Imagine-toi, » dit Taïeb, « que ma pauvre mère, elle la repose son âme, m'avait promis à sa nièce. Elle avait fait venir de Tougourt à dos de mulet. » Dès son arrivée, ma cousine s'était mise à filer la laine du trousseau, là, au bord de ce puits. Et Taïeb cueillit une pierre, la lança pour indiquer la place où sa fiancée avait accoutumé de s'asseoir. Les noces approchaient. Un jour, je m'étais rendu à la ville, chez un tailleur, pour y traîner un pantalon de drap. Le pantalon me plut. Je demandai au juif Abraham s'il possédait encore de la même étoffe. « Il m'en reste 7 mètres, me répondit-il, juste de quoi faire un autre pantalon. « Eh bien, « mêlez-moi de côté, » le recommandai-je, et je regagnais, heureux, ma montagne. L'heure du Maghreb me surprit en route. Je dus faire mes ablutions. J'ôtai mon pantalon neuf qui pesait lourd à mes reins. Je l'étalai sur un bouquet de ronces, et je rebaissai ma gandoura blanche sur mes membres propres que j'avais lavés au ruisseau. Et, tourné vers le couchant, je priai Allah avec ferveur. La nuit tombait quand je saluai ma cousine. Elle était encore assise au bord du puits, roulant sa quenouille. Ses cheveux étalés étaient rouges comme du carmin par le henné des accordailles. Ses yeux dorés me souriaient. « Regarde, lui dis-je, faire douce, regarde !» Et je soulevai doucement ma gandoura pour lui montrer mon joli pantalon de drap. « Que veux-tu que je regarde ?» me dit-elle. « Je ne vois rien. »«
Tu ne vois rien. »
Je levai plus haut. « Non, » me dit-elle en baissant craintivement les yeux. « Je ne vois rien. » Alors je levai ma gandoura jusqu'aux épaules. « Et maintenant, tu ne vois rien ?» Ma cousine lâcha sa quenouille et s'enfuit éperdue. « Eh bien, lui criai-je, il y en a encore 7 mètres de côté. » Comme ma fiancée se ruait dans le gourbi en se bouchant les oreilles de ses index, « Qu'a-t-elle ? » me dis-je, et je palpai mes hanches. « Horreur, j'avais oublié mon pantalon. » Je rebroussai chemin à toutes jambes. Quand je revins, une heure plus tard, mon beau pantalon de noeud sur les bras, ma mère me dit, « Pleure, mon fils, pleure sur ta fiancée, elle est repartie pour sa tribu. » Yem Setout se pinça les lèvres pour briser un rire, feignit de tousser. « Eh !» soupira-t-elle, « elle n'était point ta destinée. Vois, mon fils, tu me fais de la peine. Je jure sur ta généreuse hospitalité, sur ton âme pure, que je vais te choisir une fille de grande tante, jolie comme un cierge de fête, qui ne connaît rien de la vie, qui tête encore sa mère à l'âge de 16 ans. Tu ne seras plus seule, tu goûteras l'amour et ses joies. Cette semaine !» Je t'amènerai ta femme au coucher du soleil. » Taïeb essuya de larmes d'attendrissement, se moucha avec ses doigts et regarda le ciel. Une semaine plus tard, on voilait Serge des Fêtes pour la conduire chez son époux. Taïeb l'attendait à la pointe d'un rocher, prêtant l'oreille aux faibles échos de la montagne. Tar et ses amis et tous les jeunes gens d'Imsala faisaient cortège à la mariée. Les troubadours en tête clamaient dans la nuit. « Prends ce que Dieu t'envoie, ô heureux époux. » Notre fille est noble, notre fille est vierge, notre fille, nul ne l'a vue. » Et les invités reprenaient le refrain en chœur en pouffant de rire. Quand on fut parvenu au seuil du gourbi, Yem Setout avait découvert un énorme rouleau de frange qu'elle se mit à dérouler autour du front de Serge des Fêtes. Mais Taïeb le naïf, qui ignorait la coutume, « Donnez-la-moi sans frange, » s'était-il écrié, « j'ai ma flamme qui monte. » Alors, comme Serge des Fêtes pénétrait triomphant dans le logis nuptial, Yem Setout lui avait glissé sous les voiles la vessie du petit agneau qu'elle avait rempli du sang de ses gencives pour les remplacer de la virginité perdue. La légende s'était répandue dans les douars et longtemps on s'amusa de la naïveté de Taïeb. Pendant que Tar se remémorait tout cela, la salle du café s'était peuplée comme une grenade mûre. Des dames en magnifiques toilettes du soir s'étaient étendues à terre sur de petits tapis. D'autres s'étaient réfugiées dans le restaurant, ombreux et luxueux comme un sérail. D'autres, dans le souk, marchandaient des parfums ou quelques beaux tableaux tunisiens conçus par l'âme fraîche de Yahya. La plupart examinaient ce grand arabe, accoutré comme un bouvier normand, qui causait avec leur ami si tard. Elles essayaient de percer le mystère de leur langage, ce que leur pensée enfermait de rêve ou de délire. Quelle relation pouvait avoir le patron du café de Paris et ce fruste bonhomme qui sentait le terroir sous sa blouse de maquignon, la matraque de figuier dans ses doigts noueux. Tous deux, si dissemblables d'allure, on les devinait frères, frères de là-bas, des pays du soleil. « Eh bien, Serge Defaite est content d'être à Paris ?» demandait Sitar à Taïeb le naïf. « Oh oui, qui n'aime pas Paris ? Celui qui est encore dans le ventre de sa mère. Maintenant, Serge Defaite ne voudrait à aucun prix retourner au bled. Que fait-elle de ses journées ? Elle va dans les magasins, elle va au cinéma. Toute seule ? Non, avec sa voisine, Madame Marius. Pourquoi ne l'amènerais-tu pas ici un jour ? Oh, crois-tu que j'ai déjà vendu ma religion pour acheter le déshonneur ? » Sitar se pinça les lèvres. « Tu es quand même resté le pâtre des montagnes. Qui oublie le métier de ses pères, Allah l'oublie. » Et depuis, presque chaque soir, Taïeb le naïf vient demander à son ami Tar une place auprès de lui sur la banquette moelleuse. Il lèche un café turc et cause du pays, tandis que la musique le berce de son éternelle plainte nostalgique. Un après-midi, Taïeb le naïf fit irruption dans la salle du café, sa blouse déchirée, les lacets des godillots traînant sous les semelles, sa casquette rejetée de guingois. Une humeur sombre tordait son visage. Il était suivi d'une femme, lente et superbe, soigneusement voilée, que Tar reconnut aussitôt pour Serge Defaite. « Eh bien, camarade ? » interrogea Tar. « Qu'as-tu ? Désolé sur les beautés d'aujourd'hui ? Oh, que mon cœur est étroit, étroit ! Je veux mourir !» s'écria Taïeb. « Allah voit, mon âme ! J'aurais aimé perdre tout mon bien, et mes bœufs tunisiens et mes vaches soudanaises, plutôt que d'apprendre que ma femme me trompait. « Laisse, laisse, ami !» gronda l'ancien troubadour, avec sa bonne grosse voix compatissante. « Refroidis ton sang. Ne te tourmente pas ainsi pour les beautés aux cheveux mêlés, aux yeux troublants. Ton cœur s'habituera aux serments des femmes. »« Non, jamais. Je veux divorcer aujourd'hui même !» s'exaspéra Taïeb en choquant sa matraque contre le sol. « Je veux que tu m'indiques un cadi. Je suis ton frère. Toi seul sais où se cachent ici ces hommes d'Allah. » Tar repoussa son tarbouche et se gratta la tête. Quel ennui, pensait-il. Où vais-je lui trouver un cadi dans Paris? Et que deviendra cette malheureuse ici après un divorce, en admettant que Taïeb ne l'assomme pas d'un coup de sa matraque, lorsqu'il aura obtenu satisfaction? Nous l'avons tirée du ruisseau, elle va retomber dans le torrent. Se ravisant tout à coup, il déclara. Un cadi. Oh oui, oui, rien n'est plus facile. Attends-moi seulement une minute. Tous les regards s'étaient portés sur Serge Defaite, qui, pendant le dialogue des deux amis, s'était tenu à l'écart, derrière l'orchestre. Sa beauté transparaissait à travers le voile que des mains longues retenaient mollement. Un groupe de jeunes mâles, vêtus avec une parfaite élégance, aux joues émaciées, aux prunelles de flamme, qu'il examinait avec une curiosité particulière, venait d'attirer l'attention de Serge Defaite, et soudain les entendit qui parlaient sa langue. « Oh !» se dit-elle. Qui eût cru que ces Français étaient des musulmans. Et Serge Defaite convint que leurs visages étaient les plus beaux. Tar avait pénétré dans l'arrière-boutique. Il appréhenda son associé par l'épaule. « Brahim, lui dit-il, nous nous sommes associés pour gagner un pain béni. Parfaitement. Associons-nous pour une bonne action, veux-tu ? Je suis prêt, affirma Brahim avec sa franchise et sa bonne humeur habituelle. Tar savait que son associé, si Brahim était né chanceux, on avait d'un commun accord placé le café sous l'égide de son nom. Au pays là-bas, pour la fête des puits, lorsque les femmes se réunissaient à minuit et se lavaient les mains dans une cuvette d'argent où elles avaient recueilli de l'eau de sept puits différents, et qu'ensuite elles jetaient cette eau sur le bord du chemin en invoquant leur chance, alors que pour les unes c'était un beau jeune homme qui apparaissait, mais sommeillant au clair de lune, que pour d'autres on entendait des pleurs d'enfants dans le soir ou des appels d'oiseaux nocturnes, quand la mère de Brahim invoquait « Oh, la chance de mon fils chéri !» Un nègre surgissait, bras nus, la gandoura retroussée aux genoux, courbée au milieu d'un champ d'avoine, et à lui seul, il assumait toute la tâche de la moisson. À la fête des alliances, lorsque la jouvencelle choisissait, les yeux fermés, parmi les bagues d'or qu'on avait jetées pêle-mêle dans un foulard rose, si la bague de Brahim lui venait au doigt, elle pouvait être certaine qu'elle se marierait dans l'année. « Brahim, dit Tar, il te faudra faire le cadi pendant 10 minutes. » Le cadi, moi ? Allons, tu te moques. Laisse-moi. » Mais Tar savait que Brahim était sensible à la beauté. Il ajouta, « La femme est jolie. » « Sur Allah, elle est jolie, » sans qu'Ibrahim, « jolie comme un cierge de fête. Tâche de réconcilier l'homme et la déshéritée, tu gagneras le paradis. » Ibrahim lécha ses lèvres gourmandes. « Bah, je les attends. » Confortablement installé sur des matelas, en une niche du petit bosquet, Brahim, très sévère, égrène un chapelet d'ambre tandis qu'il compulse, en guise de Coran, le livre de comptes du café. Il se réjouit de la beauté que ses yeux vont découvrir et de l'occasion qui lui est offerte en même temps d'accomplir une bonne action. Dès qu'il aperçoit Taïeb qui s'avance, gauche et lourd sous sa blouse de maquignon, la matraque de figuier à la main, Brahim se plonge dans sa lecture avec un sérieux plus grave, active l'égrènement de son chapelet. Taïeb s'est agenouillé à ses pieds, il balbutie d'une voix implorante. « Sidi El-Kadi, mets une main sur ma tête et dis que tu me pardonnes. » Ibrahim le répliquait d'une voix ferme. « Allah te pardonne si tu dis la vérité. Voyons, parle, que t'arrive-t-il » « J'habitais les cornes d'une montagne, mon Sidi, quand j'épousais une vierge. Allah t'a béni. Mais le chitane m'avait soufflé, va en France, et je suis venu, laissant ma femme. Tu as mal fait. Pourtant, mon Sidi, j'avais suspendu ma gandoura à un clou au-dessus du lit, et cierge des fêtes n'eut pas d'enfant. Aux aubergines, ma situation était devenue prospère. Je fis venir ma femme. Tu as fait une excellente chose. Je vécus avec elle l'époque des aubergines. Nous passâmes le temps des poivrons, et nous voilà en pleine tomate. C'est cela, combien Brahim en étranglant le rire dans sa gorge. Parle-moi d'elle. Comment est-elle, ta femme ? Taï peut être sincère. Il est savoureux pour exprimer sa tendre admiration. Ses doigts gourds étalés en éventail, il hoche en mesure sa face de troglodyte et elle recoule d'un accent lointain. Elle est fine comme une gazelle. Sa chevelure frise comme le simoun. Le cadi soupire d'aise et de volupté. Allah, Allah. Ses bras sont élégants comme des sabres. Allah, Allah. Son nombril est profond comme la vasque de la mosquée. Là, jamais. Assez, assez, crie Brahim, que le désir affole. Et maintenant, que t'a-t-il pris de vouloir la répudier ? Mon Sidi, elle vient de mettre au monde un enfant qui ne m'appartient pas. Qu'en sais-tu ? Es-tu sûr de ce que tu avances ? Peux-tu porter sans frémir contre une créature d'Allah une aussi formidable accusation ? Oui, mon Sidi. Et déjà la voix de Taïeb tremblait de crainte. J'ai fait venir ma femme à l'époque des aubergines, te dis-je. Nous avons passé le temps des poivrons et maintenant nous sommes en pleine tomate. Brahim a lié sa bouche au moyen d'un foulard pour comprimer sans rire. « Eh bien, » réplique-t-il, simulant une douleur aux dents. « Eh bien, mon Sidi, cela fait 3 mois, et je crois que la femme, tout comme la vache, ne met au monde qu'au bout de 9 mois. Je veux divorcer, car cet enfant ne m'appartient pas. » À ce moment, Serge des Fêtes, à qui tard a fait un signe, s'avance à son tour d'un pas hiératique toujours voilé. Sa taille majestueuse se balance comme une branche lourde de fleurs. Elle vient s'asseoir à la turque au pied du cadi. « Mon Sidi, » murmure-t-elle, et écarte son voile. Le cadi a un mouvement de stupeur, de recul à la vue de ce visage radieux. « Mon Sidi, vois ma beauté, aie pitié de ma jeunesse, de mon sort, et de la jaunisse de mes dents. » Elle a entr'ouvert la bouche pour sourire. Ses dents ressemblent à de la grêle au cœur d'une rose, et entre ses dents, un doublon d'or apparaît. Ses yeux étincelants expriment au juge « Ceci est pour ta récompense, ceci est pour le sel de tes mains. » Mais peu importe, Abraham, le plus gros doublon d'or, il lui donnait à lui toute la recette du café, la part qui lui revient et celle de ses associés, pour voir le spectacle d'un aussi adorable visage. Il est ému, bouleversé, ébloui. Il se retourne brusquement vers Taïeb, le naïf, et roulant ses yeux soudanais. « Tu dis qu'il y a 3 mois que ta femme t'a rejoint ?»« Oui, Sidi. » »« Tu as passé avec elle 3 mois de jour ?»« Oui, Sidi. » Et 3 mois de nuit ? Oui, Sidi. Alors, reprend Brahim, en recomptant sur ses doigts, comment peux-tu dire que cet enfant n'est pas le tien ? 3 mois entre aubergines, poivrons et tomates ? Oui, Sidi. 3 mois de jour ? Oui, Sidi. 3 mois de nuit ? Oui, Sidi. Cela fait 9 mois, il me semble. Allons, sauve-toi, fils de chien, qui cherche à souiller les vierges de l'islam. Dieu, hélas, donne des fèves à qui n'a pas de dents. Tu es le bœuf que le laboureur attache à la charrue pour tracer des sillons. Et dire que Serge des Fêtes t'a épousé. Taïeb, aussitôt convaincu, confus et repentant, s'est affalé sur le sol de la niche Il baise avec ferveur les babouches du cadi. « Mon Sidi, supplie-t-il, mon Sidi, ne me maudis pas. Je ne savais pas, vois-tu, compter les mois de l'enfantement chez la femme. Je ne sais que ceux de mes vaches. Je te jure que l'avenir, je retiendrai, je saurai. » Puis il se dresse vers cierge des fêtes, oubliant sa pudeur farouche de montagnard. Il l'étreint à plein bras. « Ô femme, fille du soleil, s'écrie-t-il, maudits soient ceux qui vous soupçonnent. Allons, Kawadji, appelle-t-il, apporte des cafés pour la bénédiction de notre cadi. Musicien, entonnez à mon compte l'hymne des bienheureux. » Et nul ne s'est douté, ni des Européens ignorants, ni des Arabes un peu étourdis par l'ambiance parisienne, qu'au café de Sibrahim, par la générosité de deux croyants, un drame vient de s'éteindre dans une farce. Ainsi s'achève, au café de Sibrahim, par Elissa Rice.